Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Aujourd'hui, on va parler de trois clés
pour
une bonne fondation d'une vie de prière productive.
Qui veut avoir
une vie de prière productive?
Je crois
que vous avez envie, tous,
d'avoir
une vie de prière
qui
produit quelque
chose.
J'ai très à cœur de partager des choses sur la prière en ce moment.
Parce
que malgré tout ce que nous essayons de faire ici à l'église El Shaddai, étant donné qu'il y a régulièrement des gens qui se convertissent, nous voulons mettre des fondations pour que vous puissiez comprendre des clés essentielles, fondamentales, pour avoir une vie de prière productive. Parce que moi, quand je regarde les chrétiens vivre, d'une manière générale, quand j'entends des choses dans tous les séminaires qui sont organisés à droite et à gauche, quand j'entends des frères et sœurs à droite, à gauche, de différentes églises, de droite, de gauche, on s'aperçoit souvent qu'un des problèmes qu'ils ont, c'est le manque de compréhension de ce qu'est la prière. Et souvent, c'est un manque de base. Un manque de fondation sur lesquels ils n'ont pas donc mis leur vie de prière. Dans Jean chapitre
15,
Jésus va nous parler de la prière. Et on va introduire par ce texte-là, puis un autre après. Et après, je vais vous montrer trois clés qui vont vous donner à réfléchir sur votre vie de prière. Parce que moi, ce que je veux voir, c'est des chrétiens qui passent un temps merveilleux avec Dieu. Moi, je veux que les gens d'El Shaddai et tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement de la parole, je veux les voir avancer. Avancer dans leur relation avec Dieu. Parce que sinon, nous passons à côté de la meilleure des choses que Dieu a pour nous. Regardons dans Jean chapitre
15.
Le Jean chapitre 13 à 17, ce sont des chapitres qui sont simplement quelques heures avant le sacrifice de Jésus.
Donc
juste avant la croix, Jésus sait qu'il va donner en sacrifice. Il ne peut pas donner beaucoup d'enseignements sur l'église, révéler des choses que plus tard Dieu donnera entre autres à l'apôtre
Paul.
Mais il va donner quand même quelques pupilles d'or à ses disciples. Mais ici, dans Jean 13 à 17, on a vraiment des passages extraordinaires où Jésus va partager une intimité avec ses disciples comme jamais nous avons dans les évangiles. Jésus va partager des moments spéciaux et il va leur dire: demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, verset 4, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Lis le verset 5 s'il te plaît.
Ni jewe muzabibu namwe muramashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane kuko atacho mubasha gukora mutamfise.
Donc regardez bien ce verset 5. Moi je suis le cep.
Ati aravuga ngo ni jewe muzabibu.
Bon, disons pour simplifier le tronc de l'arbre.
Et
vous, vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il y a beaucoup de gens qui ont super spiritualisé ce passage. En disant, si je fais quoi que ce soit, je prends un verre, je le prends au nom de Jésus, je bois au nom de Jésus. Ça, c'est des excès. Jésus n'a jamais parlé du naturel. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire de spirituel. Là, Jésus parle du royaume de Dieu. Du monde spirituel. D'ailleurs, verset 7, il dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Donc il est clair que là Christ nous fait des promesses. Il s'adresse à son église et il dit, moi je suis le cèpe, le tronc d'arbre, de là sort la vie, vous allez être en moi, moi je vais être en vous, la vie divine va couler. Et la branche va faire quoi? Dans un arbre, est-ce que c'est le tronc sur lequel vous récupérez les mangues, par exemple, ou les fruits? Non. C'est sur les branches. Ce sont les branches qui portent les fruits. L'arbre donne la vie, transmet la vie aux branches. Mais ce sont les branches qui portent les fruits. C'est sur les branches que l'on cueille les fruits. Et là, Jésus nous parle du fruit de la prière. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une vie productive dans la prière. Parce que Jésus parle ici de fruit de la prière. Le contexte ici, demandez ce que vous voudrez, etc. Ça parle bien de la prière. Donc Jésus veut quoi? Que nous soyons productifs dans notre vie de prière, que nous portions du fruit. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Qui veut glorifier Dieu? J'espère que tout le monde désire glorifier Dieu. Si vous désirez glorifier Dieu, une des façons de le faire, c'est de porter du fruit dans la prière. Alors, d'abord, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a plein d'idées préconçues qui sont fausses sur la prière. Vous savez, quand on regarde le ministère de Jésus, on voit que Jésus avait une relation avec son Père, et on voit les disciples dans les Actes qui ont une relation avec Dieu d'une manière générale, et ça paraît bon. Ça paraît pas intéressant. Truc religieux, bizarre, inintéressant, comme malheureusement ce que beaucoup de chrétiens font et ce qu'ils appellent la prière. Dans Luc chapitre 11, les disciples avaient remarqué que Jésus, quand il priait, il y avait un impact. Le ciel et ils se posaient des questions à tel point qu'ils ont dit la chose suivante au Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu, verset 1, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi est-ce que ses disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner sur la prière? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'ils ont vu que chez Jésus, il y avait une relation spéciale. Il y avait quelque chose de spécial entre son Père Céleste et lui. Et ils se posaient la question. C'est Seigneur, toi, quand tu t'adresses au Père, il y a vraiment quelque chose. Quelque chose de bon. Il y a quelque chose qui coule. Quelque chose qui est merveilleux. Seigneur, enseigne-nous ces choses. On a envie de connaître ces choses. la chose que vous devez savoir,
c'est
que si vous voyez votre vie de
prière
comme une obligation, je dois prier.
Ah,
j'ai un problème.
Je
dois prier.
Ah,
aujourd'hui, je dois prier. Si vous voyez votre vie de prière comme une obligation
ou
comme un devoir religieux,
je
vais vous dire une chose. Vous avez tout faux. Vous avez 0 sur 20 sur votre copie. Comment est-ce que tu vois ta vie de prière? Est-ce que pour toi, dire, ah, il faut prier. Vraiment, oui, il faut prier. Oui, oui, on prie. Bon, c'est vrai, hein, aujourd'hui, ah, j'ai pas prié aujourd'hui.
Hein.
Vous voyez, il y a quelque chose qui plane sur les chrétiens.
Souvent.
Ça en dit long sur leur relation avec Dieu. Mais il faut quand même prier, frère.
Hein.
Tu sais, on doit hein, prier.
Hein.
Ah, on doit. Hein. Et les gens, ils sont comme ça. Et ça devient un devoir. C'est un devoir. Une obligation. Mes amis, la première des choses que vous devez vous poser comme question, la première clé qui vous aidera
à
avoir une vie de prière productive, c'est d'enlever une mentalité. Et cette mentalité est la suivante. Est-ce que quand tu pries, pour toi c'est quelque chose de lourd, d'ennuyant, un devoir? Si la réponse est oui, ce matin, je vais dire une chose, il faut que tu changes. Vous savez, Dieu ne changera pas. Si pour toi, la prière est un devoir, quelque chose de religieux, quelque chose de je dois, ça veut dire que tu as tout faux dans ta vie spirituelle. Ça veut dire que tu as une fondation pourrie.
Et
il faudra que cette fondation pourrie, tu la casses et que tu construis sur l'écriture. C'est ce que l'écriture dit. Mes amis, la prière ne doit jamais être un devoir. La prière, passer du temps avec Dieu, ça doit découler
d'une relation
avec ton Dieu.
Si ce
n'est pas le cas, mets-toi devant ton Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je veux que ça change.
Bah,
vous savez, pendant 10 ans dans ma vie de prière, quand j'avais reçu le Seigneur, j'étais frustré. Mais frustré. Pendant 10 ans, j'essayais de faire des choses. J'essayais de prier.
Hein,
parce qu'on essaye de prier.
On essaye.
Ça, c'est la religion, mes amis. Ce n'est pas le
christianisme.
Le christianisme n'est pas basé sur ces choses. Et ce que je faisais, c'est que je me levais très tôt le matin. Et après, j'allais donc au boulot, mais j'essayais de réserver 1 heure. Vous savez, souvent, on lit des enseignements sur la prière. Et alors, il y a des gens qui écrivent des choses en disant, oui, combien de temps un chrétien devrait prier? Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Ou lu des choses comme ça? La grande question, pour être un bon chrétien, pour être spirituel, combien de temps tous les jours, je dois prier. Alors souvent, on va chercher un verset du côté où Jésus va se donner en sacrifice. Vous savez, dans le jardin de Gethsémané. Jésus dit à ses disciples qu'il avait laissé pour qu'ils prient. Il les trouve endormis. Et il leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et les gens, ils entendent ça. Ils disent,
ah
oh, Seigneur, je te dois bien 1 heure de prière. Et souvent, on prend des résolutions. En disant, maintenant, moi, de telle heure à telle heure, je dois prier.
Alors,
vous prenez une résolution. Ça tient 1 jour. 2 jours. Alors évidemment, entre temps, toutes les 5 minutes, vous regardez votre montre pendant votre heure de prière. Un œil ouvert sur la montre, l'autre œil fermé sur le Seigneur.
irinde najya rihomirije risenga.
Ça vous est jamais arrivé?
Ntabwo bibashikira.
Ça fait 30 minutes que je prie. Alléluia. Qu'est-ce que je suis spirituel aujourd'hui?
Timazima iminota 30 uyu munsi ndatanga kuvuga impuhemo bashe.
Et moi je me levais comme ça tôt le matin.
Ntabyuka ayo masaha mu gato.
Et j'avais les deux yeux, vous savez, qui tombaient de sommeil comme ça.
Ugasanga rera gatiro karacarimwo.
On avait une petite cuisine.
J'ouvrais
ma Bible. J'avais ma tasse de café ici. Je lisais un peu ma Bible. Je fermais mes yeux. Je commençais à prier. Ou à ce que j'appelais la prière. Et puis au bout de 5 minutes, je faisais comme ça. Parce que je m'endormais. Et Jésus n'a jamais dit prier et dormir. J'avais pas compris une chose. Que la prière devait découler de ma relation avec Dieu. La prière doit être un fruit de notre relation avec
Dieu.
La première épître de Jean nous parle de ça. Chapitre
1,
verset
3.
Vous savez, Jean était quelqu'un de relationnel. C'était le disciple le plus proche du Seigneur. Au niveau relation. Vous savez, parmi les 12, il y avait un groupe qui était plus proche du Seigneur. C'était Pierre, Jacques et Jean. Ils vont faire des expériences très particulières avec Jésus. Mais Jean a été l'apôtre le plus intime avec le Seigneur. Il mettait toujours la priorité sur la relation avec
Jésus.
C'était vraiment ça qui l'intéressait.
Il
le passionnait. Il faisait tous ses efforts pour savoir ce que le Seigneur pensait, pour savoir ce que le Seigneur faisait. Il suivait son Seigneur. À tel point que le jour où Judas a trahi Jésus, eh bien, c'est Jean qui a pu savoir qui était le traître parmi les 12. Jésus lui a dit, il est celui qui a reçu cette révélation. Jésus lui a dit. Et Jean va écrire beaucoup sur la relation. Si vous étudiez la première épître de Jean, vous verrez que c'était ça le plus important pour lui. Jean va dire, la deuxième partie du verset 3, première épître de Jean, chapitre 1, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Jean dit ici que notre communion est. C'est un présent qu'on appelle continu. C'est dans la langue originale grecque. C'est un état de fait. Quelque chose qui est là que tu ne peux pas changer. Or notre communion, notre relation ouverte, si vous préférez, elle est. C'est quelque chose qui existe, que Christ a ouvert au travers de son sacrifice par ta nouvelle naissance. Le jour même où tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, Dieu est venu habiter dans ton esprit. Il t'a fait de toi une nouvelle créature et il a ouvert cette relation. Il a rendu possible cette relation. Cette relation existe entre toi et lui. Maintenant, ta responsabilité va être de développer cette relation. Et c'est quoi développer la relation avec Dieu? Ben, ça s'appelle tout simplement la prière. Voilà. Voilà une définition de la prière. Le développement de notre relation avec Dieu. Donc c'est pour ça que vous comprenez déjà que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas en connexion avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas pris son abonnement à Fricel Télécel pour l'éternité avec Jésus. Eh bien, il n'est pas en connexion avec
lui.
La connexion n'a pas été établie. C'est comme quand vous achetez un téléphone portable. Eh bien, si vous ramenez votre téléphone portable, vous l'avez acheté, vous le enlevez de son paquet. Si vous essayez de composer un numéro comme ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il vous manque la petite carte. La petite carte SIM. Qui vous permet d'être connecté au réseau. Qui vous permet d'être connecté. Quand vous avez mis votre carte SIM. Et que vous avez acheté votre carte de téléphone portable. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand vous composez un numéro. Vous pouvez être en connexion avec la personne, vous pouvez parler. Mais c'est votre carte SIM qui vous permet d'avoir le réseau. Et nous avons un abonnement pour l'éternité. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça a été gratuit. Jésus a payé le prix.
Amen.
Tu es connecté.
Amen.
Tu es connecté. Mais alors, il faut que tu apprennes à profiter. Ce que Dieu désire, c'est de développer une relation avec toi. C'est ça la prière. La vraie prière. Donc si tu vois la prière comme quelque chose de religieux, tu as tort. C'est une mauvaise base. Ça, c'était bon, soit pour les Juifs sous l'Ancienne Alliance, ou au pire, des gens qui prient entre guillemets un Dieu. Religion. De religion. Non, nous sommes dans une relation. Cette relation a été ouverte. Vous savez, il y a des gens, pour eux, la prière, c'est parler à Dieu. Non, c'est pas parler à Dieu. La prière n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est une relation. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? C'est toi qui parles et Dieu qui te parle et on se comprend. On communique ensemble. On communique ensemble. Ce sont des bases fondamentales, mes amis. C'est ça la prière. C'est communiquer avec Dieu au travers de la louange, au travers de l'adoration. Nous insistons beaucoup sur la louange et l'adoration parce que c'est une communication. C'est un moment particulier où tu le remercies. Ou après tu ouvres ton esprit et tu l'adores et il se passe des choses, il se passe des choses merveilleuses, de bonnes choses pour ta vie qui te permettent d'aller plus loin. Bien sûr, la prière c'est aussi demander des choses. Par contre, la prière c'est pas raconter du baratin à Dieu, tout un tas d'histoires. Oh Seigneur, tu vois, aujourd'hui j'étais au marché. Oh Seigneur, merci parce que j'ai eu un rabais sur telle et telle chose que j'ai acheté. Oh Seigneur, oui, j'ai téléphoné à telle personne et je lui ai dit ça et je lui ai demandé ça, Seigneur, et après Seigneur j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, vous pouvez vous raconter toutes ces histoires à vous-même ou à votre mari ou à votre femme, mais avec Dieu c'est une relation profonde. Deux choses qui viennent de votre cœur, de votre esprit, parce qu'il vous aime. Donc, passer du temps avec Dieu, c'est non pas un temps de quantité, mais un temps de qualité. Comment est-ce que tu vois ta vie de prière? Est-ce que c'est le nombre de minutes, le nombre d'heures, ou est-ce que c'est la qualité? La qualité, mes amis. Dieu est intéressé par la qualité de la relation. Non pas par tout un tas de trucs que tu peux lui dire. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Donc enlève cette fondation pourrie. Si tu vois la prière comme une espèce de devoir, un truc où tu dois passer X temps sans qu'il y ait de qualité. Vous savez, des fois, vous pouvez passer 5 minutes avec le Seigneur et être touché dans sa présence d'une façon merveilleuse, vraiment d'être renouvelé. Vous savez, dans la prière, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je parle de la vraie prière. Regardez Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40,
31.
J'essaye d'éveiller des choses. J'essaye d'éveiller des choses. Parce que dans ce passage, ça nous montre quelque chose de puissant. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point.
Ariko abiteze cyangwa bize yuhoraho bazokoma biyura mu ngomezi insha bazodugisha amababa nk'inkoko mabiruke ntibaruhe bagende ntibadende bukigwe.
Ceux qui se confient en l'Éternel,
ils
renouvellent leur force. Quelqu'un indique ce verset pourrait être traduit de la façon suivante. Ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur faiblesse avec la force de Dieu. J'aime bien cette image.
Hein.
Parce que ça me fait toujours penser à cette image de la batterie. Quand on n'est pas né de nouveau, c'est comme une batterie de voiture qui est foutue. Vous savez, quand au bout d'un moment, votre batterie, vous ne pouvez plus la recharger dans une
voiture.
Et si vous allez chez un mécanicien,
un
vrai mécanicien, je
parle,
il va vous dire la batterie est foutue. Alors vous pouvez dire, on ne peut pas la recharger. Non, elle est foutue. Il
n'y
a qu'une chose à faire. Tu la jettes. Et il faut en acheter une nouvelle.
Ben,
vous savez, quand nous étions des pêcheurs, notre esprit, il
ne
pouvait pas être bricolé par Dieu. Notre esprit, il a fallu qu'il soit recréé. Dieu a dû recréer notre esprit. C'est pour ça que la Bible dit que quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a remplacé ta batterie interne, ton esprit, ta nature spirituelle. Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a changé ta batterie. Il l'a pas rechargée, bricolée, parce qu'elle était foutue. Elle n'aurait pas pu servir pour le royaume de Dieu. Dieu a remplacé ta batterie. Il a mis une nouvelle batterie. Tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, pour marcher sur cette terre, elle a besoin de force divine. Et la Bible dit ici, que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je suis sûr que si Ésaïe avait été au temps où nous sommes, Dieu lui aurait dit, quand vous vous confiez en moi, quand vous êtes dans ma présence, je recharge votre esprit, votre batterie spirituelle. Et c'est ça que Dieu veut faire. Vous savez, quand nous passons un temps avec Dieu, et parfois on voit avec des gens, ils disent qu'ils font un jeûne et prière pendant 3 jours. Certains sont très spirituels, ils font ça pendant 30 jours. Et ils essayent de faire jusqu'à 40. Mais je vais vous dire une chose. Quand Jésus est ressorti de son jeûne, Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il a commencé à marcher, il a exercé son ministère, il y a eu un éclatement de la gloire de Dieu. Alors que souvent nous voyons des gens qui disent qu'ils ont passé du temps avec Dieu.
On a l'impression
c'est la compétition parfois, vous savez. Combien de jours de jeûne? 10. Ah, moi c'est 21.
Moi
21. Tu crois que tu pourras tenir jusqu'à quand? Vous voyez, les gens font c'est pas scripturaire.
Mais
je vais vous dire une chose,
hein.
Si vous passez du temps avec Dieu, vous devez ressortir en rayonnant
de la présence de Dieu.
Il y a des gens, ils sortent des fois de la prière, entre guillemets. Ils sont là, ils sont tristes. Ils sont malheureux. La première chose qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils ont des problèmes. Que ça ne va pas dans leur vie. Et qu'ils espèrent que Dieu va faire quelque chose. Ils sont tellement tristes et malheureux que vous vous dites la chose suivante. Ceux-là, ils ont rencontré tout sauf Dieu.
Non,
parce que quand on passe du temps avec Dieu, du temps de mentalité,
il y a quelque
chose qui se passe. Dieu vient transférer des choses dans ton esprit. Il vient te faire du bien. Donc vous voyez très bien que quand nous prions réellement, quand nous répondons à cette invitation ouverte que Dieu nous donne, parce qu'il a ouvert la voie au travers du sang de Jésus, quand il nous dit viens mon fils, viens ma fille, et que tu es là, tu passes un temps de communion avec ton Père, tu es dans le ciel, que tu passes du temps avec Jésus, que tu passes du temps dans la présence de Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est produit. Dieu transfère des choses, il te parle, il te fortifie, il y a un échange, il y a une connexion.
Hein?
Quand par exemple nous sommes découragés et puis on dit je vais téléphoner à celui-ci
parce
que lui il est fort, j'ai besoin d'entendre des paroles d'encouragement, vous appelez la personne et elle vous fait du bien, elle vous encourage.
Eh
bien quand vous raccrochez le téléphone,
vous
allez dire vraiment cette discussion, cette conversation, ça m'a fait du bien.
Amen.
Ça m'a fortifié. C'est pas comme ça avec Dieu. Ça doit être comme ça. C'est pas comme ça. Tu dois changer tes fondations. Donc ça, c'est la première clé.
Ne
pas voir notre vie de prière comme un devoir religieux. Donc à chaque fois que vous voulez passer du temps avec Dieu, posez-vous la question. Est-ce que c'est une soif de votre cœur ou est-ce que c'est parce que je dois prier? Si c'est je dois prier, eh bien repens-toi.
Oui,
dis au Seigneur pardon.
Dis
Seigneur, moi je veux que ma relation
change.
Je veux que ça avance avec toi. J'ai envie de t'aimer, Seigneur. J'ai envie de passer du temps de qualité avec toi. Et je vous garantis, si vous faites ça avec un cœur sincère, mais votre vie de prière, ça va
découler.
Des fois, vous passez quelques minutes avec Dieu. Vous dites, c'est merveilleux.
Vraiment,
c'est super.
Oh, là, là.
C'est tellement bon.
Oh,
de passer du temps avec Dieu.
Oh,
et vous avez envie d'en passer plus.
Et
plus.
Et
puis, d'un seul coup, la parole de Dieu va devenir quelque chose de tellement bon. Comme les meilleures choses que vous avez envie de manger. Mais spirituellement parlant, ça va être comme une nourriture, quelque chose de complètement nouveau.
Et
vous allez lire un verset, vous
allez
dire, mais c'est incroyable. Depuis que ma relation avec Dieu
est
plus forte, que je ne vois plus ma vie de prière comme un truc de religion, quand je lis la parole, c'est complètement différent. Deuxième clé, comprendre notre responsabilité. Là, c'est quelque chose d'important. Parce que vous savez, passer du temps avec Dieu, être béni quand on est dans sa présence, c'est une très bonne chose. Par contre, ça peut rendre un certain nombre de chrétiens égoïstes. C'est-à-dire des gens qui disent, finalement, j'aime bien dans la présence de Dieu parce que je me sens bien. D'accord. Mais souviens-toi d'une chose, c'est que tu vas avoir une responsabilité. Un grand homme de Dieu a dit un jour la chose suivante: quand je me mets à genoux et que je m'adresse à Dieu, j'agis comme si tout dépendait de lui. Au moment où je me lève et que je marche dans ma vie chrétienne, j'agis comme si tout dépendait de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme avait compris sa responsabilité. Il avait compris d'abord que les choses que lui-même ne pouvait pas réaliser, Dieu le Tout-Puissant pouvait intervenir de son ciel de gloire dans les différentes situations impossibles. Mais il savait qu'il avait sa parachute. D'abord de demander les choses à Dieu, de demander des besoins humains pour que le ciel ciel intervienne dans des besoins humains. Et il avait compris aussi une chose.
C'est
qu'il avait un rôle. Un rôle dans la foi. Donc il faut comprendre notre rôle. Nous sommes le corps de
Christ.
Regardons un peu cette révélation du Nouveau Testament. Vous ne trouverez pas ça dans l'Ancien Testament. Parce que même si dans l'Ancien Testament, nous avons un certain nombre de passages où il y a des gens qui vont prier et qui vont voir le ciel s'ouvrir et il va y avoir des éclatantes victoires de Dieu. Il faut savoir que nous, en tant que chrétiens de nouveau, nous avons beaucoup plus que ceux qui étaient sous l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, étant donné qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas en connexion avec Dieu. Donc ils priaient, ils jeûnaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils priaient, jusqu'à temps que les portes s'ouvrent. C'est pour ça que Jésus dira dans l'évangile de Luc que en fait ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais dans la révélation du Nouveau Testament, regardons un peu ce que Paul reçoit comme révélation dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1 verset 18, puis après nous lirons dans Éphésiens Colossiens 1:18. Il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Regardons cette même idée qui nous est révélée par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1 versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef, pour tête suprême à l'Église qui est son corps. Qui est la tête? Qui est le corps? Jésus est la tête. Je ne vais pas vous apprendre que Jésus est au ciel. À la fin des évangiles, au début des actes aussi, la Bible nous montre que Jésus est retourné à la droite du Père. C'est assis à la droite du Père dans une position d'autorité et il est au-dessus de tous. Grâce à son sacrifice, Jésus est au ciel à la droite du Père. La Bible nous dit que Jésus est la tête. La Bible prend cette analogie, cette image, pour nous expliquer quelque chose d'important. Qu'est-ce que fait notre tête? Notre tête réfléchit, raisonne, et au bout d'un moment prend des décisions. On peut dire que c'est l'organe décisionnel. C'est là où nous prenons les décisions. Ma main pour prendre ce stylo, ce n'est pas elle qui a réfléchi, mais c'est ma tête qui a réfléchi. Avec mes yeux, j'ai regardé à quelle distance était ce stylo. Et j'ai donné un ordre à ma main de prendre ceci. Comprenons une chose. La tête, c'est l'organe décisionnel. La tête, c'est Jésus. Il est au ciel. Nous, nous sommes le corps. Nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. Et il faut comprendre notre rôle. Notre rôle d'exécutif. Notre rôle dans la prière. Nous sommes là. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Pourquoi faire? Pour prier. La Bible nous dit que Dieu habite où ça? Au milieu des louanges de son peuple. Où est son peuple? Sur le mont Kilimanjaro? Non. La présence de Dieu n'est pas sur le mont Kilimanjaro. Un jour, la gloire de Dieu a touché le mont Kilimanjaro. Dans toute la création, la gloire de Dieu a touché quelque chose. Pour créer ces choses. Mais la présence manifeste de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas dans le bois de ce pupitre. Non, pourquoi? Parce que sur la terre, la présence de Dieu est d'abord en toi, si tu fais partie du corps de Christ. Et elle vient se manifester sur nous, au travers de nous, ou en faveur de ceux pour qui on prie, Parce que nous sommes le corps.
Parce que nous sommes le corps.
Donc comprenons notre responsabilité. Il y a trop de gens qui ne comprennent pas leur responsabilité. Vous savez, quand nous sommes unis dans la présence
de Dieu,
nous sommes là en train de louer, adorer Dieu dans l'église. Quand il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui
viennent,
cette présence travaille sur eux. Certains parmi vous, vous êtes témoins, ces
choses-là.
Vous êtes venus dans cette église-là. Vous avez vu les gens louer, adorer Dieu.
Et
il y a quelque chose qui est venu sur vous, qui a travaillé.
C'est
la présence du Saint-Esprit. C'est nous qui amenons la présence de Dieu sur la terre. Dieu a besoin aussi de toi et de moi. Pour lui demander. Sinon, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous laisser sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu laisse son église sur la terre? Parce que son église a un rôle dans la prière. D'amener la présence de Dieu sur la terre. La présence de Dieu ne viendra pas comme ça. Sur la terre. La Bible nous dit, je vous rappelle, que Dieu habite au milieu des jolis arbres. La Bible nous dit-elle que Dieu habite dans le lac Tanganyika? Non. La Bible nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Dieu intervient. Si tu lui demandes quelque chose, Dieu se manifeste en toi, chrétien, né de nouveau, membre du corps de
Christ.
Tu fais ta part.
En
moi, chrétien, né de nouveau, je fais ma part dans la présence de Dieu. C'est exactement cela. Nous avons une responsabilité. Nous représentons nous, le corps de
Christ,
Dieu sur la terre. Ça, c'est la deuxième clé de notre responsabilité. Maintenant, il y a une troisième clé. C'est la clé de la prière efficace. Jacques chapitre 5. Important. Jacques chapitre 5. Vous devez toujours avoir ces trois clés. Pensez à ces trois clés. Jacques chapitre 5. On va lire juste la fin du verset 16 parce qu'on n'a pas le temps de commenter tout le passage. La Bible nous dit: la prière agissante ou œuvrante du juste a une grande efficacité. La prière agissante, œuvrante du juste a une grande efficacité. Que veut dire être efficace? Efficace veut dire amener le résultat désiré. Amener le résultat désiré. Trop de gens, quand ils prient, quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils essayent. La prière ne s'essaye pas, mes amis. On n'essaye pas la prière. La prière ne s'essaye pas comme un truc qu'on va prendre en se disant: oh, après tout, j'ai pas d'autre moyen. Je vais prier, puis on verra bien. C'est très commun comme expression. J'entends beaucoup de chrétiens dire ça. Quand tu dis: Dieu va m'aider, avant d'ouvrir ta bouche pour dire ces mots-là, réfléchis sur si ta prière est efficace ou pas. Ou tu veux que ta prière soit efficace. Vous savez, quand nous ouvrons notre bouche pour demander quelque chose à Dieu, est-ce que nous voulons voir le résultat désiré? Ça, c'est vraiment une clé. Ça s'appelle la détermination. Trop de gens essayent. On va essayer, on verra bien. Bon, on va prier. Presque comme une fatalité, vous savez. Quelque chose qu'on essaye vraiment au dernier moment.
kugerageza nivyo bisiga.
Pour voir si ça marche.
Kugira ngo urabe ko bikunda.
Non mes amis.
Oya bagenzi.
Si vous priez comme ça.
Niba senguko.
Si vous demandez des choses comme ça.
Ugasaba ibintu ko mu Imana.
Arrêtez de jouer à ça.
Hagarika kubisinaho.
Parce que vous savez à force de faire des choses.
Kuko muraze ukubandanya ukora.
Qui ne sont pas scripturaires.
Bidahwanye ni jambo y'Imana.
Vous savez ce que ça fait dans nos vies spirituelles.
Urazi ngene bikoreka mu nzimbo gacu bw'impuhemo.
Ça crée un monde autour de nous.
Birema isi y'impuhemo muri
twe. Qui n'est pas le monde de Dieu.
Atari si y'Imana.
Nous vivons après dans un monde qui est bizarre. Faites très attention. Parce que moi je vois beaucoup de chrétiens qui sont
comme
ça. Ils vivent dans un monde, ils se sont créés une vie chrétienne. C'est bizarre. Pas clair. Pourquoi? Parce qu'ils ne basent pas leur relation sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. N'essaye jamais la prière. Mais prends la décision. Avant de demander quelque chose à Dieu.
Je
veux dire, Seigneur, moi je veux voir un résultat. Je veux voir un résultat. Je refuse d'essayer. Mais je suis déterminé à te voir agir dans mon
sens.
Parce que tu es Dieu. J'ai besoin de toi. Seigneur. Et Dieu sait que nous avons besoin de toi. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Si vous priez, Seigneur, béni à toutes les sauces, eh bien, je vais vous dire une chose. Vous passez à côté de ce qu'est la prière.
Hein?
Le Seigneur bénit mon église.
Vas-y.
Seigneur bénit le pasteur. Seigneur, tu vas bénir les chants qu'on va chanter. Seigneur, tu bénis ma maman, tu bénis mon papa, tu bénis le pays, tu bénis, bénis,
bénis.
Ça ne veut rien dire. C'est une formule. C'est incroyable de voir autant de gens dire qu'ils ont prié. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un groupe de prière ou même de passer du temps entre guillemets dans la prière et de demander tellement de choses à Dieu qu'à la fin vous sortez de la maison puis vous dites au fait qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu, je ne me souviens plus. J'ai demandé tellement de choses. Seigneur, tu le sais, tout ce que je t'ai demandé. C'est pas ça être déterminé. Ça, c'est jouer à la loterie nationale. Ça ne fonctionne pas, c'est pas la prière. La vraie prière, c'est être déterminé. C'est être déterminé. Veux voir Dieu faire ça. Tu vas t'attacher à la parole de Dieu. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, les mots que tu vas dire seront tellement chargés de foi que tu diras Père, au nom de Jésus, merci, je te demande ça et je sais que c'est accompli. Rien que de dire ça, 30 secondes, et tu vas remercier ton Dieu, et tu seras dans la louange, dans la foi. Je te garantis d'une chose, c'est là où tu verras le résultat. Mais arrête de prier n'importe quoi, n'importe quoi. Soyons clairs, soyons spécifiques, désirons vraiment voir le résultat. Regardons dans Jean 15 encore.
Vous
savez, Jean 15, il y a de grandes richesses dans la prière. Dans Jean 15, il y a vraiment de grandes richesses dans la prière. Verset 7. Si vous demeurez en moi, ça veut dire si vous êtes chrétien et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Mes paroles qui demeurent en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, ça c'est le temps que vous passez avant de prier dans la parole de Dieu. Le choix. Si vous voulez voir Dieu agir, ne pensez pas que ce sera un coup de chance. Ne pensez pas qu'un jour il prendra votre numéro de prière, qu'il le tirera du panier et qu'il dira ah, aujourd'hui je réponds à ta prière. Non, il
n'y
a pas de loterie nationale. Soit tu as une relation de qualité qui développe et tu veux vraiment comprendre ton rôle, ayant compris ton rôle, voilà. Tu veux que ce soit efficace. Tu veux le résultat
désiré.
Tu veux vraiment voir Dieu intervenir dans ta vie d'une façon merveilleuse. C'est ça ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que Dieu nous aime.
Et
ce que Dieu veut, c'est vraiment que notre vie de prière ne soit pas quelque chose d'ennuyeux,
mais
soit quelque chose de bon, d'agréable, que nous découvrons jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que notre relation se développe, non comme un devoir religieux, mais comme quelque chose qui est tellement bon qu'on en a encore envie. Vous savez, quand on goûte quelque chose de bon, vraiment,
qui nous
dit ça c'est tellement bon, eh bien, qu'est-ce que tu veux faire? T'en as envie de plus, normalement. Maintenant, quand tu as goûté quelque chose et tu as fait c'est mauvais, ça merde. Tu ne vas pas aller courir partout pour acheter la même chose. Si on te propose le même type de nourriture, tu vas dire non, merci. C'est normal. Quand tu goûtes combien la prière est bonne, combien du temps avec Dieu, de passer ce temps précieux de qualité, quand tu goûtes ces choses du Seigneur, j'ai envie de plus. Nous allons tous nous lever, nous allons
tous nous
alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus.
Amen.
Ouvrez-vous vos cœurs.
Levez
vos mains vers le Seigneur. C'est un temps où on s'examine nous-mêmes. On a étudié ces trois points ce matin. Concentrez-vous sur le Seigneur. Ayez les yeux sur Jésus. Vous savez, Christ a tout fait.
Nous devons
être en relation. Dans une relation d'amour. Avec Dieu. Il a ouvert les portes. Par son sang précieux. Et il nous donne une invitation ouverte. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette invitation? Est-ce que c'est quelque chose de religieux pour nous? Vraiment. Dis au Seigneur. Seigneur, j'ai envie. J'ai envie d'une relation plus profonde. J'ai envie de goûter plus. J'ai envie de goûter plus, Seigneur. Plus de toi. Plus de ton amour. Plus de la relation. Plus de ta présence. Parce que c'est bon, Seigneur. C'est un temps, mes amis, particulier où vous vous examinez. C'est un temps où l'Église de Dieu s'examine. Prends la décision de ne plus jamais t'adresser à Dieu. Parce que tu dois. Pas parce que si tu dois, ce n'est pas bon. C'est parce que Dieu veut pour toi. Mais parce que tu as envie. Envie de Dieu. Envie de sa présence. Envie de la relation. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Donc renonce à tout ce qui est religieux. Nettoie ta vie spirituelle. Plus jamais. Plus jamais. Dis je dois prier. Mais dis toujours Seigneur, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Et quand tu sens que ton esprit est ouvert, profite de ces moments particuliers. Profite de ces moments particuliers. Parce que c'est quand ton esprit est ouvert que cette relation deviendra de plus en plus profonde. Comprends aussi ton rôle. Tu fais partie du corps. Tu fais partie du corps. Tu es un membre du corps de Christ. Tu as ces privilèges merveilleux. Merveilleux. De pouvoir t'adresser au Père. Et de lui dire Père. Au nom de Jésus. Et tu sais qu'il t'entend. Parce que la connexion est faite.
et que quand tu as la foi pour lui demander quelque chose, il peut intervenir en ta faveur et dans la faveur de ceux pour qui tu pries. Comprends ton rôle ce matin. Responsabilise-toi. Ne sois pas un chrétien endormi qui ne comprend rien ou qui veut vivre que pour lui-même. Seigneur, j'ai envie que moi. Renonce à l'égoïsme. Renonce à l'égoïsme. Si tu as goûté à la bonté de Dieu, à la présence de Dieu, sache une chose, c'est pour que tu ailles plus loin et pour que tu te tournes vers les besoins des autres dans la prière. Ça, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Maintenant, la troisième chose. Renonce à essayer la prière. Mais prends la décision. À partir d'aujourd'hui, quand tu ouvres ta bouche pour demander quelque chose à ton Dieu, de regarder l'écriture. De méditer la parole. Et de t'adresser à ton Dieu. En lui disant, Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de ça. Et tu es déterminé. Ça c'est beau, mes amis. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux quand c'est ça la vraie relation. C'est ça la vraie prière. Le reste, ce n'est pas la prière. Ce n'est que religion. Ce n'est que truc qui ressemble à des choses et qui ne sont pas des choses et qui ne portent pas de fruit. Et au travers de ça, le Père n'est pas glorifié. Ayons ce désir, mes amis, de porter du fruit dans la prière pour que le Père soit glorifié. Désir, dis-lui, Père, Père, j'ai envie que tu sois glorifié dans ma vie de prière. Je suis sûr, c'est toujours ce que Jésus voulait. C'est pour ça que Jésus a pleinement réussi ce qu'il a fait. Parce qu'il avait toujours ce désir de glorifier le Père. Oh, merci Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci. Tu nous fais découvrir plus. Nous tous la vraie prière. Parce que c'est tellement beau. Oh, mes amis, il y a une présence de Dieu. Qui est bonne. C'est un temps, mes amis, de méditation. Vous avez entendu la parole. Je vous assure. Ce sont de puissantes vérités. Des puissantes vérités de la parole. Quand nous les vivons, c'est là où notre relation avec Dieu devient de la qualité. Et non pas de la quantité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce domaine-là. Aide ton peuple. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.